Nous allons terminer notre étude sur le sacerdoce universel. Je ne sais pas si on peut dire qu'on va la terminer parce que c'est interminable ce sujet. Mais il faut bien finir à un moment donné. Après, on verra si le Seigneur décide autrement. Je me soumettrai. Et on va rappeler le texte de base de toute cette étude. Pour ceux qui sont novices ou pour ceux qui nous rejoignent dans cette étude, vous rappelez que le sacerdoce universel, ça signifie qu'aujourd'hui, nous sommes appelés tous à prendre nos responsabilités dans le royaume de Dieu. Il y avait sous l'ancienne alliance des personnes qui étaient vraiment au-dessus des autres par leur onction, qui avaient des responsabilités bien particulières, qu'on appelait d'ailleurs les sacrificateurs. Et aujourd'hui, nous sommes appelés tous à prendre notre place, tous au même niveau, la même valeur devant Dieu. On est tous sacrificateurs, tous participants de l'œuvre de Dieu, de la nature divine. On ne relit pas tous les textes, mais on avait lu ce texte dans l'Épître de Pierre où il est dit justement que nous sommes participants de la nature divine. C'est dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1, qu'il est dit ceci: « À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. » Je vous fais un petit rappel des dernières études pour voir. Parce que souvent, quand on dit aux gens « Vous êtes sacrificateur, vous êtes quelqu'un d'important », ça fait plaisir. Hein. Mais quand on fait l'étude et qu'on voit tout ce que cela implique, ça fait réfléchir aussi. Ça fait plaisir quand même, ça fait toujours plaisir de voir comment Dieu il nous honore. Alors qu'on ne devrait pas être honoré de cette manière, mais c'est par le sang de Jésus, par son sacrifice, qu'on peut avoir ce privilège d'être appelé sacrificateur dans son royaume. Mais Dieu vraiment nous met ses responsabilités, et donc elles entraînent évidemment des choses. Et on avait vu, premièrement, que le sacerdoce, ça rime avec le sacrifice. Donc sacrificateur, sans passer par le sacrifice personnel, c'est compliqué. Le sacerdoce passe par le service, c'est un état d'esprit de serviteur. Nous sommes mis à un grand poste, non pas pour être mis en avant et pour dominer sur les autres, mais pour les servir. Hein, de même que Jésus l'a fait lui-même, il est venu comme serviteur. Et puis le sacerdoce, c'est aussi la prière. Le sacrificateur, c'est celui qui se met entre la colère de Dieu et l'homme qui a péché. Et par nos prières, nous pouvons porter tous ceux que nous connaissons, qui sont loin de Dieu et qui ont besoin de venir à Jésus. Le sacerdoce, on l'a vu dimanche dernier, c'est aussi la connaissance, la transmission. Les sacrificateurs connaissaient la loi et ils la transmettaient au peuple. Et nous devons, en tant que sacrificateurs, être des hommes, des femmes qui connaissent bien la parole de Dieu, capables de la transmettre à ceux qui ne la connaissent pas. Et aujourd'hui, nous allons voir que le sacerdoce rime avec adoration. Christ, qui est souverain sacrificateur, il nous amène vers la vraie adoration. On a vu que dans tous ces domaines, Christ a montré, c'est ce qu'il a fait, lui. Hein, il s'est sacrifié, il a été serviteur, il a prié, il a intercédé pour nous, et il le fait toujours. Et puis, il a transmis, il a enseigné. Les foules qu'il rencontrait, on s'attache souvent aux miracles qu'il a fait, mais on oublie que le plus important, c'est l'enseignement qu'il a laissé. Et c'est ça qui transforme nos vies, c'est pas de voir « Oh, Jésus l'a guéri un aveugle !»« Oh, formidable !» Ok, c'est bien, mais ça ne change pas mon cœur. Mais les paroles de Jésus, si elles pénètrent mon cœur, elles vont me changer en profondeur. Amen. Et Christ aussi nous amène à l'adoration. Il a dit ceci à la Samaritaine, dans l'évangile de Jean, pardon, au chapitre 4 et au verset 24, vous connaissez ce texte. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Amen. On va lire un texte dans le livre de l'Exode, au chapitre 30, qui nous parle de l'adoration et des sacrificateurs. Tu feras un autel pour brûler des parfums. Tu le feras de bois d'acacia, sa longueur sera d'une coudée et sa largeur d'une coudée. Il sera carré et sa hauteur sera de 2 coudées. Tu feras des cornes qui sortiront de l'autel, tu le couvriras d'or pur, le dessus, les côtés, tout autour et les cornes, et tu feras une bordure d'or tout autour. Tu feras au-dessous de la bordure 2 anneaux d'or aux 2 côtés. Tu en mettras aux 2 côtés pour recevoir les barres qui serviront à le porter. Tu feras les barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'or. Tu placeras l'autel en face du voile qui est devant l'arche du témoignage, en face du propitiatoire qui est sur le témoignage et où je me rencontrerai avec toi. Aaron y fera brûler du parfum odoriférant. Il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. Il en fera brûler aussi entre les 2 soirs lorsqu'il arrangera les lampes. C'est ainsi que l'on brûlera à perpétuité du parfum devant l'Éternel parmi vos descendants. Vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger, ni holocauste, ni offrande, et vous n'y répandrez aucune libation. Une fois chaque année, Aaron fera des expiations sur les cornes de l'autel. On ne va pas aller plus loin. Voilà, on s'arrête au verset 9. Ce matin, pour conduire ce temps sur le sacerdoce et l'adoration, nous allons parler de l'autel des parfums. Alors, pour qui c'est du charabia, je vais essayer rapidement de vous expliquer. Donc, il s'agit d'un ustensile qui était dans le tabernacle et ensuite dans le temple. Le tabernacle, c'est une maison qui avait été érigée par Moïse au milieu du peuple d'Israël, qui était une tente, puisque le peuple d'Israël se déplaçait, pour pouvoir adorer Dieu, pour pouvoir venir à la rencontre de Dieu. C'est le but du tabernacle. C'est la tente de la rencontre, ça s'appelle. Et puis ensuite, c'est devenu le temple. C'est Salomon qui en a dessiné les plans. C'est David qui a dessiné les plans. Et c'est Salomon, son fils, qui l'a construit. Donc, cet autel des parfums, il se trouve dans ce qu'on appelle le lieu saint. On va regarder sur une diapo. Donc ça, c'est l'autel des parfums. Et la diapo suivante. Voilà, vous avez ici le lieu saint. Donc on verra tout à l'heure un plan vu d'en haut pour voir que ça, c'est qu'une partie du tabernacle. C'est la tente qui est au milieu du tabernacle et tout autour, il y a une enceinte en toile. Et puis devant cette tente qu'on voit là, qui est ouverte pour qu'on voit ce qu'il y a dedans, sinon elle est fermée, il y a l'autel des holocaustes et la cuve des reins pour se laver les mains. Donc là, ici, on voit très bien le lieu saint, où il y a le chandelier, on voit une table à droite. Alors si tu peux zoomer, la diapo suivante, vas-y. Voilà, on a au fond à droite une table, c'est la table avec des pains qui sont posés dessus, les pains de proposition, les 12 pains. On a devant le chandelier à 7 branches. Et puis on a ce qui est entouré, l'autel des parfums qui est juste devant. Vous voyez, il y a une toile, reviens à la diapo précédente. Il y a une toile à côté et qui sépare. Et derrière, on distingue quelque chose qui est l'arche de l'Alliance, qui est le lieu très saint. Et ce lieu-là qui est au fond, là, on ne pouvait pas y rentrer. Parce qu'il y avait la présence de Dieu. Si quelqu'un y entrait, il mourrait. Seul le sacrificateur, le souverain sacrificateur, était autorisé une fois par an à y entrer pour consulter l'Éternel et recevoir ses instructions. Ça va ? Dans ce qui se passe dans le lieu saint et les rituels liés à l'autel de parfum nous montrent 3 choses qu'on va voir ce matin. 3 choses, vas-y, avance encore. Le sacerdoce nous conduit au lieu très saint. Ensuite, le sacerdoce nous mène à la prière d'adoration. Et le sacerdoce sous-entend la sanctification. Premier point, le sacerdoce nous conduit au lieu très saint. Le tabernacle, en fait, il trace le chemin pour venir rencontrer Dieu, je l'ai dit, pour venir dans la communion avec Dieu. Et ici, on a vu plusieurs choses jusqu'à maintenant. Ici, on arrive devant le rideau, devant le lieu très saint. On est au bout du parcours, là. On est à un endroit qui est extraordinaire. Derrière, là, juste derrière, il y a la présence de Dieu. Waouh ! On va regarder un plan pour que vous compreniez mieux. Le plan du tabernacle. Alors c'est petit, mais je vais vous expliquer. Je vais venir là. Ce sera plus simple. Donc vous avez l'entrée qui est ici, vous avez la flèche. Ici, vous avez l'autel des sacrifices, l'autel des holocaustes, où on faisait les sacrifices pour les péchés, pour d'autres choses aussi, des offrandes. Il y avait plusieurs choses qui se faisaient là. Ici, c'est la cuve d'airain, où il y avait de l'eau, où les sacrificateurs devaient se laver les mains et se purifier. Et après, on rentre dans la tente. Donc, vous voyez, ça, c'est l'enceinte d'où je vous ai parlé, l'enceinte extérieure. Et à l'intérieur, il y a la tente, avec dans la tente le lieu saint et le lieu très saint. On a vu la coupe tout à l'heure, hein, le plan de coupe. Donc, il y a le chandelier ici, la table avec les pains, l'autel des parfums ici. Et ici, on a le lieu très saint avec l'Arche de l'Alliance. OK, ça va? Vous suivez? Donc, on rentrait. En fait, le parcours, c'était ça. Mais en fait, les personnes lambda comme nous, elles venaient juste là, déposer leurs offrandes. Après, toute cette partie-là, c'était les sacrificateurs. Mais comme on est tous sacrificateurs, on est concernés par cette partie-là, on est d'accord? C'est pour ça qu'on a avancé et qu'on se retrouve là, devant l'autel des parfums. Je vous rappelle, juste pour mémoire, qu'on avait dit que Jésus, lui, il a fait le chemin inverse. Jésus, lui, il était là, dans la présence de son Père. Et pour que nous soyons sauvés, il a fait tout le parcours inverse et il est venu sur l'autel des sacrifices et il s'est sacrifié pour nous. Amen. Pour que nous, on puisse faire le chemin dans ce sens-là. Si Jésus ne fait pas ce chemin-là, nous, on ne peut pas venir jusqu'au lieu saint. C'est bien compris, ça? C'est très important. OK? Ça va? Jusque-là, vous me suivez? Si vous avez des questions, je serai disponible après ou dans la semaine, parce que après, ça risque d'être un peu trop long. L'autel des parfums est tellement près du lieu très saint qu'il y a même des textes, je vous les cite juste pour ceux qui prennent des notes ou qui entendront le podcast, Hébreux 9, 3 et 4 et Exode 45, on a l'impression même qu'il est dans le lieu très saint. C'est tellement fou, il est tellement près que ça en devient flou. On sait qu'il ne peut pas être dans le lieu très saint puisqu'il fallait venir matin et soir l'entretenir. Et qui nous est dit par ailleurs que dans le lieu très saint, on ne peut y rentrer qu'une fois par an. Donc ce ne serait pas logique. Mais il est tellement proche, il se confond quasiment avec le lieu très saint. Et on sait que pour nous aujourd'hui, ben c'est le cas. Puisque vous savez, quand Jésus est mort à la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Le voile qui sépare le lieu saint du lieu très saint, il s'est coupé en deux. Au moment où Jésus meurt sur la croix, ce voile, il se coupe en deux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus m'a purifié, m'a lavé, et maintenant je peux être dans la présence de Dieu sans mourir, parce que je suis purifié. C'est super, non? Ça n'a pas l'air de vous égayer tant que ça, mais moi, ça me bouleverse, vraiment. Dans Exode 30... On l'a lu tout à l'heure, les versets 1 et 3, il nous est dit « Tu feras un autel pour brûler des parfums, tu le feras de bois d'acacia. » C'est la première précision qui nous est donnée. La deuxième, c'est qu'il sera entièrement couvert d'or pur. Le bois, dans la Bible, c'est le symbole de l'humanité, de notre humanité, de notre faiblesse. Le bois, ce n'est pas quelque chose de super solide, bon, quoi qu'il y a des bois qui sont quand même relativement solides, mais ce n'est pas aussi solide que les métaux, ce n'est pas... aussi endurant, et puis ça se consume rapidement par le feu. Hein, et donc c'est le symbole de l'humanité. Et qu'est-ce qui se passe avec cette humanité? Dieu la recouvre de son or. Amen. L'or, c'est le symbole de la divinité. Nous arrivons devant le lieu saint, nous sommes de bois, nous sommes de chair, mais nous arrivons devant le lieu saint, grâce au sacrifice de Jésus, nous arrivons couverts d'or pur. Amen. Dieu nous voit couverts d'or pur, mes frères et sœurs. C'est extraordinaire, c'est puissant. Combien le sacrifice de Jésus est puissant. Alors que Dieu devrait détourner sa face quand il nous voit, il nous regarde émerveillé. C'est fou, hein? Ça, c'est par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Amen. On peut s'avancer vers lui dans notre humanité, grâce à Christ. Plus on avance dans le tabernacle, vers le lieu très saint, et plus les objets sont précieux. La cuve et l'autel des holocaustes, à l'entrée, ils sont en airain. Quand vous rentrez, ensuite, c'est de l'or. Parce qu'on approche de la présence de Dieu. Dans le livre du Lévitique, il est précisé que pour certains péchés, le sacrificateur faisait certains rituels, et la plupart du temps, les rituels se passaient sur l'autel des holocaustes, à l'entrée, les sacrifices. Mais quand c'était un sacrificateur qui avait péché, Il fallait qu'il aille jeter aussi du sang sur l'autel des parfums. Pourquoi ? Mais parce que le sacrificateur allait dans le lieu saint. Et donc, il fallait purifier aussi tout, les endroits où allait le sacrificateur. Et aujourd'hui, moi, ça me touche, parce que je suis sacrificateur. Et lorsque je commets un péché, ça n'a pas les mêmes conséquences que quelqu'un du peuple qui ne connaît pas Dieu. Comprenez la nuance ? Et ce rôle de sacrificateur, vraiment, nous responsabilise. Aujourd'hui, nous sommes tous sacrificateurs. Les gens du peuple, les gens lambda, on faisait des sacrifices et il suffisait de les faire hors de la tente. Quand c'était le sacrificateur, il fallait rentrer aussi purifier l'intérieur de la tente. Nous avons besoin d'être purifiés. Amen. Le deuxième point, c'est que le sacerdoce nous mène à la prière d'adoration. L'autel des parfums est ce qu'on appelle un type. Un type, dans la Bible, c'est quelque chose qui préfigure quelque chose. Et l'autel des parfums préfigure la prière d'adoration que les saints sont appelés à faire monter vers Dieu. Dans le psaume 141, verset 2, il est dit ceci, « Que ma prière soit devant ta face comme l'encens. » C'est de l'encens qu'on faisait brûler. « Et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. » Et puis, ce qui est très intéressant, c'est que si on va dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 5, et on va lire du verset 8 à 14, excusez-moi, la lecture sera un peu longue, mais c'est important, tous les détails sont importants. Vous allez voir qu'on va refaire le pont entre sacrificateur et adoration. Apocalypse 5, verset 8. « Quand il eut pris le livre, » donc là on est au ciel, Jean décrit des choses qu'il voit au ciel en vision. « Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. » L'agneau, c'est qui ? C'est Jésus. « Tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. » Alors les prières, je vais le rappeler une énième fois, ce n'est pas la liste des commissions. Seigneur, je veux, Seigneur, fais ci, Seigneur, Seigneur. C'est pas ça, les prières. La prière, c'est l'adoration. C'est le moment où on est en relation avec Dieu pour le mettre à la place qui lui est due, en se prosternant, en se mettant en soumission devant lui pour l'honorer. Amen. Et aussi dans la contemplation de sa gloire et de sa magnificence. Et on va voir que c'est le cas dans ce qui suit. Dans ce qui suit, ils chantaient un cantique nouveau en disant, ils disaient pas « Seigneur, guéris-moi, Seigneur ». Non, ils disent « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute maison. » La première chose, c'est la reconnaissance pour le sacrifice de Jésus à la croix. Et ensuite, qu'est-ce qu'il est dit ?« Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. » Vous ne voulez pas louer le Seigneur pour ça ? Être reconnaissant parce qu'il a fait de vous des sacrificateurs, c'est autre chose que la liste des commissions, là. « Et ils régneront sur la terre. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. » Ils disaient, écoutez ce que c'est l'adoration, ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Amen. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit louange, la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Et les quatre êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Amen. C'est puissant, c'est extraordinaire. Mais on doit vivre les prémices de ça, mes frères et sœurs. Quand on se réunit, on se rassemble, on doit vivre les prémices de ça. Et si on est toujours devant Dieu en train de dire « Seigneur, je suis malade, Seigneur, j'ai ceci, Seigneur », on ne vivra pas ça. Bon, on peut le faire. On peut le faire. L'apôtre Paul dit « Faites connaître vos besoins ». Mais si nos temps de prière se résument uniquement à ça, on ne connaîtra pas la gloire, on ne connaîtra pas ces moments de gloire. Et moi, je peux vous dire que j'ai vu dans ma vie, et j'en vois encore aujourd'hui, des gens qui ont tellement de sujets de se plaindre parce qu'ils souffrent, parce qu'ils ont des épreuves, et ils sont capables de rentrer dans un temps d'adoration et d'oublier tout ça pour mettre Dieu en honneur. Amen. Et là, Dieu, on l'a dit, hein, on l'a chanté. Hein, quand on le loue, sa gloire descend sur nous. Amen. C'est un sacrifice. L'adoration, c'est le sacrifice qui remplace les meurtres d'animaux. Je ne sais pas si on peut dire les meurtres d'animaux, je ne trouve pas d'autre expression. Le fait de tuer les animaux. En fait, c'est un don de soi sans effusion de sang. Il n'y a plus besoin d'effusion de sang. Puisque Jésus a versé son sang. C'est une loi spirituelle, il n'y a pas de pardon sans que le sang soit versé. C'est pour ça qu'il fallait sacrifier des animaux pendant toute l'ancienne alliance. Mais la Bible dit que Jésus, lui, il est mort une fois pour toutes. Et donc, il n'y a plus besoin de sang. Son sang nous purifie, nous lave de tout péché une fois pour toutes. Amen. L'adoration a remplacé les sacrifices. On lit cela dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 13 et au verset 15. « Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. » Confesser son nom, c'est ce qu'on a entendu dans l'Apocalypse tout à l'heure. Ok ? C'est ça, le fruit des lèvres qui confesse son nom. Ça, c'est le sacrifice que Dieu agrée. Amen. Le mot sacrifice, c'est le grec anakainosis, dont la racine signifie changement vers le meilleur, remise à neuf. Vous avez envie d'une remise à neuf ? Non, je vois les papis, les mamies qui me regardent. Non, c'est pas de celle-là que je parle. Elle serait bien aussi, hein ? Une remise à neuf, on aimerait. Hein ? Moi, je commence à avancer en âge aussi. Il y a plusieurs machins qui ne marchent plus trop bien. Non, la remise à neuf du cœur. Amen. Notre cœur a besoin d'une remise à neuf, oui ou non ? Qui c'est qui a un cœur impeccable et qui n'a pas besoin de remise à neuf ? Qui lève la main ? Je vais le convoquer en entretien personnel. On a tous besoin. Notre cœur est mauvais. La Bible dit, l'apôtre Paul dit, on est tous corrompus. On est tous pécheurs. On a tous besoin que notre cœur soit rénové. Amen. Et quand on vient dans l'adoration... Quand on vient dans ce moment, eh bien, le grec nous dit que ce fruit des lèvres qui confesse son nom, ce sacrifice de louange, eh bien, il permet une remise à neuf. Merci Seigneur. Amen. Des fois, c'est au lieu de dire Seigneur, remets-moi à neuf, ben, loue-le, adore-le, mais réellement, hein, on va voir ce que c'est après, dans le troisième point. Pas juste mettre un chant sur YouTube. C'est pas mauvais de faire ça, hein, parce que j'en vois qui disent « Ah mince, moi j'écoute YouTube ». Non, mais c'est pas grave, tu peux. Mais c'est pas ça l'adoration. Hein. Ça, c'est la louange. L'adoration, c'est bien plus que ça. Et on va le voir. Ne restons pas à l'autel des sacrifices. Dieu nous appelle à l'autel des parfums. Amen. Oui, Jésus m'a sauvé. Oui. Mais maintenant, tu dois croire que ça y est, tu es pardonné, tu es libéré de tes péchés. Tu es un enfant de Dieu, tu peux avancer maintenant. Avance, va vers l'autel des parfums, faire ce pour quoi tu as été créé. À savoir pour adorer ton Dieu. Amen. Oh, tu vas dire, je ne suis pas digne, je ne peux pas. Tu crois au sacrifice de Jésus ou tu n'y crois pas ? Chaque fois que tu dis « je ne peux pas, je ne suis pas digne », tu effaces le sang de Jésus. Tu dis « il est mort pour rien, ça n'a servi à rien ». Alors attention, ça ne veut pas dire prendre les choses à la légère. « Ah, Jésus est mort pour moi, c'est bon, tout va bien ». Non, troisième point. Le sacerdoce, et je dirais l'adoration, sous-entend la sanctification. Nous voyons que ce parfum, qui monte sur l'autel des parfums, il est réservé à l'adoration. On ne peut rien faire d'autre avec. Désolé, mesdames. Vous ne pourrez pas l'utiliser comme cosmétique. Exode, chapitre 30, verset 37. Vous ne ferez point pour vous de parfum semblable. Donc c'est le parfum qui était destiné pour l'autel des parfums. Il était absolument interdit d'avoir ce parfum chez soi pour son usage personnel. Vous ne le ferez pas dans les mêmes proportions. Vous le regarderez comme saint et réservé pour l'Éternel. Amen. Là, on aborde quelque chose d'important. Il n'est pas possible d'adorer Dieu de n'importe quelle manière. Il y a une seule manière. Il y a un seul parfum qui est agréé. Ce n'est pas un mélange de parfums. C'est un seul parfum qui est saint, qui est réservé à l'Éternel. Et là, on vient dans la dimension de ton cœur. Est-ce que ton cœur est réellement mis à part ? Dans Exode, chapitre 30, verset 9, on l'a lu en introduction et on le relit. « Vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger, ni holocauste, ni offrande. Vous n'y répandrez aucune libation. » Pas d'éléments étrangers. Ça, c'est important. Attention, hein. Attention à l'adoration. Attention qui on met dans l'adoration et quels moyens on utilise pour l'adoration. On vit dans un siècle compliqué, difficile, où il y a des confusions et on veut faire comme le monde. Mais attention, moi je ne suis pas là pour trancher, dire ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, ce qu'on ne peut pas faire, mais nous devons faire attention. Parce que pour vouloir attirer les gens du dehors, on est capable de faire des compromis. Alors que moi, en discutant avec les gens du dehors, quand ils viennent dans une église, ils ne cherchent pas à voir ce qu'il y a dans le monde. Hein. Ils cherchent à voir autre chose. Et nous, on veut qu'ils soient à l'aise, qu'ils retrouvent ce qu'ils ont l'habitude de voir. Mais non. On doit marquer notre différence. Dans notre manière de jouer de la musique, ça doit être différent. Dans les modes de musique qu'on utilise, ça doit être différent. Etc. Dans les attitudes, dans nos attitudes, j'ai assisté honnêtement à des rassemblements où je vois des jeunes gens danser et j'ai du mal à faire la différence avec des jeunes gens qui dansent dans une boîte de nuit. On peut danser devant l'Éternel, mais ce n'est pas la même manière, ça n'a rien à voir. On est d'accord avec ça ? Et le diable est malin pour mettre la confusion. Alors pareil, je ne juge pas si vous êtes quelqu'un qui danse devant l'Éternel. Ne vous sentez pas jugé par moi, je ne suis pas là à dire « Oh là, lui !» Vous savez ce que le Seigneur regarde ? C'est le cœur. Hein. Nous, on s'attache à la forme, lui, c'est le cœur. Le feu étranger, il y en a deux qui ont compris que ce n'était pas bien de mettre du feu étranger sur l'autel. Vous savez qui c'est ? Nadab et Abihu, les frères d'Aaron, les fils d'Aaron, pardon. Vous lirez ça dans Lévitique chapitre 10. Ils ont mis du feu qui n'était pas destiné qui n'est pas le feu qui était destiné pour l'autel, on va le voir. Le feu étranger sur le lieu où le parfum est brûlé, ça peut être tout ce qui vient de moi. Tu peux venir dans l'adoration avec toi et tu te présentes toi devant Dieu. Mais là, tu apportes du feu étranger. Parce que ce n'est pas toi qui peux adorer Dieu, mais c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi qui peut le faire. Amen. Et c'est une chose qu'il faut bien comprendre. Et Jésus donne l'image d'un homme religieux, certainement peut-être un sacrificateur, qui est là, qui prie dans le temple, qui dit « Moi, je donne l'aumône, moi. » Et puis à côté, un pauvre gars qui est là, qui dit « Oh Seigneur, je ne mérite pas d'être devant toi, je pleure. » Et Jésus dit « C'est lequel que Dieu va agréer ?» Et tout le monde répond « C'est le deuxième. » Sauf que beaucoup de ceux qui étaient dans la foule, ils agissaient comme le premier. On vient à l'église, on se montre, on donne une apparence. Là, à l'époque aussi, quand ils mettaient l'argent dans le tronc, ils mettaient beaucoup de pièces et ils essayaient que ça fasse le plus de bruit possible pour dire « Regardez, moi, je donne beaucoup. » C'est ça notre adoration ? Si c'est ça, c'est du feu étranger. On doit veiller à nos motivations. Pourquoi j'adore ? Pourquoi j'adore ? Ah, ce chant, qu'est-ce qui me plaît ? Ah, la musique ! C'est pour ça que j'adore. Mais vous savez que c'est un piège. Hein ? Attention. Hein ? Vous allez dans une église où ils vous chantent les vieux chants et vous êtes bloqué. Mais c'est pas normal ça. C'est pas normal. Vous allez dans une église où au niveau musical c'est pas le super truc, vous êtes bloqué. C'est pas normal. C'est du feu étranger tout ça. Je dis pas qu'il faut pas de la bonne musique et tout ça et des chants nouveaux. Il y a pas de souci. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Est-ce que j'adore pour me montrer ? Est-ce que j'adore pour me faire du bien ? Je viens en culte, Seigneur, fais-moi du bien ce matin. Feu étranger. L'adoration, elle est tournée vers Dieu, uniquement vers lui. Et il n'y a que lui. Amen. La louange, l'adoration viennent du cœur. Et le seul but qu'on doit rechercher, c'est Dieu. Il est écrit qu'il n'y aura pas d'holocauste, pas d'offrande, ni libation sur l'autel. C'est important. Le feu qui est pris sur le brasier, tu vas passer voilà, ici. Encore, avance encore un peu. Voilà, c'est beau. Le feu qui doit être pris sur le brasier, on le voit dans le livre du Lévitique, il est pris sur l'autel des holocaustes. On le prend sur l'autel des holocaustes, on prend de la cendre et on vient la mettre sur l'autel des parfums. Et après, on dépose le parfum sur cette cendre. Et cette cendre, évidemment, fait émaner le parfum. C'était important. C'est pour ça que Nadab et Abihu sont morts. Eux, ils ont utilisé du feu qu'ils avaient fait eux-mêmes. Et c'est pour, vous voyez, ça paraît un détail, hein, mais pour ça, ils sont morts. Il prendra un brasier plein de charbon ardent, ôté de dessus l'autel devant l'Éternel, et deux poignées de parfum aux deux référents en poudre. Il portera ces choses au-delà du voile. Il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel, afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage, et là, il ne mourra point. L'offrande, elle doit venir, elle peut venir, parce que d'abord, il y a eu l'autel des holocaustes. Et on doit toujours se rappeler de ça. C'est pour ça que le « moi », il doit totalement disparaître. Pour se baser uniquement sur l'autel des holocaustes. Sur le sacrifice de Jésus. Amen. Reviens en arrière, pardon, je me suis un peu mélangé dans c'est pas grave. Un parfum, ça se prépare. Je veux insister là-dessus. Un parfum, ça se prépare. Et tu vas nous mettre Exode 30, 34, 35. L'Éternel dit à Moïse, « Prends des aromates, du stacté, de l'ongle odorant, du galbanum et de l'encens pur en partie égale. Et tu feras avec cela un parfum composé selon l'art du parfumeur. Il sera salé, pur et saint. » Voilà la composition du parfum qui est utilisée sur l'autel des parfums. Il se prépare à l'avance. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'on ne peut pas rentrer dans un temps d'adoration comme ça, là. On arrive, on a pris sa voiture, on est arrivé, on s'est levé à la bourre, et on arrive au culte. Mais vous savez que c'est comme ça qu'on traite Dieu, hein, c'est grave. Hein. Même des fois, on arrive en retard. Ça n'arrive à personne. On arrive en retard. Comment on peut arriver en retard à un rendez-vous avec Dieu ? Oh ! Vous oseriez jamais faire ça si vous étiez convoqué par le président de la République ou par un personnage important ou une personne importante. Jamais vous oseriez être en retard. Et pour Dieu, comme on sait tous les dimanches, au bout d'un moment, on s'est habitué. Hein. Allez, bon, on arrive à quart. D'ailleurs, il y en a peut-être qui ont été surpris ce matin, s'ils s'attendaient à ce qu'on soit pendant les chants. Mais en fait, on est déjà dans la prédication. C'est important de se préparer, mes frères et sœurs. Et moi, personnellement, je ne vous fais pas la leçon, je demande pardon à Dieu pour toutes les fois où j'arrivais, je ne suis pas préparé. J'ai été négligent dans ma préparation. C'est important de préparer ces moments d'adoration que vous avez d'une manière personnelle, que nous avons quand nous nous rassemblons. C'est toute une préparation. Dieu a dit, Jésus, pardon, a dit, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit, en vérité. Je ne sais pas si ces paroles résonnent davantage après avoir entendu tout ce que vous avez entendu ce matin. Mais j'aimerais revenir dans le lieu saint. Qu'est-ce qu'il y a dans le lieu saint ? Qu'est-ce qu'il y a dans le lieu saint à part l'autel des parfums ? Dites-moi. Le chandelier et au fond, à droite, la table des pains de proposition. Qu'est-ce que représente la table des pains ? Le pain, ça représente quoi ? La parole. Et le feu sur le chandelier, il est entretenu avec quoi ? De l'huile. Ça représente quoi ? Le Saint-Esprit. Donc vous avez la parole de Jésus est là dans ce tableau. Vous adorerez Dieu, l'autel des parfums, en esprit, le chandelier, et en vérité, les pains de proposition. Ok ? Ça vous parle ? Donc l'adoration est indissociable de la parole et de la vérité et du Saint-Esprit. Et la préparation, alors peut-être vous arrivez au culte normalement, vous n'avez pas fait de choses spéciales. Ce n'est pas grave si vous êtes quelqu'un qui régulièrement entretenez la flamme et vous nourrissez de la parole. Si c'est ça votre vie, vous pouvez arriver au culte, bon, n'arrivez pas en retard quand même. Mais de toute façon, si c'est vraiment ça votre vie, vous n'arriverez pas en retard. Hein. Je vous le dis, vous n'arriverez pas en retard. Si vraiment vous êtes rempli de l'esprit et que vous êtes basé sur la vérité, vous n'arriverez pas en retard. Si vous le faites encore, vous devez vous poser la question. L'esprit de Dieu, je ne parle pas de retard accidentel, hein. Je parle de retard systématique. L'esprit de Dieu me donne la possibilité d'adorer, lui seul. Et ce que je vais dire dans mes paroles sera conforme à la vérité. Amen. C'est tout simple, mais tellement difficile à mettre en œuvre parce que notre chair n'aime ni le pain, ni l'huile. Elle n'en veut pas. Elle préfère se nourrir d'autre chose. C'est vrai ou pas ? Ce feu, il est entretenu constamment. Versets 7 et 8, il est dit, du texte qu'on a lu au départ, « Aaron fera brûler du parfum odoriférant et il en fera brûler chaque matin. Lorsqu'il fera quoi ? Il préparera les lampes. Il met l'huile dans les chandeliers. » Vous savez que pour le chandelier, il est dit qu'il ne doit jamais s'éteindre. Ok ? Mais c'est pareil pour l'autel des parfums. C'est pareil, parce qu'il est dit, il fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes, il en fera brûler aussi entre les deux soirs lorsqu'il arrangera les lampes. Donc matin et soir, il vient, et c'est ainsi qu'on brûlera à perpétuité du parfum devant l'Éternel parmi vos descendants. Et là, on dit, mince, on ne fait plus brûler le parfum sur l'autel. Non, mais c'est nous maintenant. C'est nous. Le parfum, il devait être brûlé matin et soir. C'était un ordre qui est donné un peu plus en avant dans Exode 27. Mais je conclue avec ceci, 2 Corinthiens 2, 15. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Nous sommes. C'est ça qui est extraordinaire dans la nouvelle alliance. C'est qu'il n'y a plus Dieu et l'homme, les symboles et l'homme, mais tout est réuni. L'Esprit de Dieu, il n'est pas hors de toi. Vous savez, quand on dit « Viens, Esprit de Dieu » ce matin, on ne peut pas enlever cette formule. Mais normalement, elle n'est pas bonne. Parce que l'Esprit de Dieu, il est déjà là puisque je suis là. Viens, prends plus de place. Viens, remplis-moi, oui, mais viens. Il n'y a pas besoin de venir, il est là. À partir du moment où tu es là, toi qui es rempli de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu est là. Amen. Nous sommes, donc ce parfum-là, ce parfum d'adoration, c'est la bonne odeur que nous dégageons. La bonne odeur de Christ. Amen. La bonne odeur de Christ, pas la bonne odeur de Luc, le bon chrétien qui accomplit ses rites, etc. La bonne odeur de Christ, ok ? C'est lui qui peut donner une bonne odeur. Quelle odeur propageons-nous, mes frères et sœurs ? Sur nos lieux de travail, dans nos familles, dans l'église, quelle odeur on propage ? Est-ce que les gens font quand on passe ? Ou est-ce qu'ils font ? Ah ! Le parfum d'adoration, et si c'était nous, ce parfum d'adoration ? Qui brûle pour Dieu. Amen. Qui brûle pour montrer la gloire de Dieu. L'adoration, ce n'est pas seulement dans nos cultes personnels, ce n'est pas dans les réunions d'église. L'adoration, c'est permanent, à perpétuité. C'est tout le temps qu'il y a ce parfum qui est entretenu dans nos vies. Amen. Par l'Esprit et par la parole, comme on l'a vu, les adorateurs en esprit et en vérité. Ces adorateurs en esprit et en vérité répandent un parfum d'une bonne odeur. Et ainsi, nous continuons d'être dans l'année de la moisson. Comment moissonne-t-on? En répandant une bonne odeur, la bonne odeur de Christ. Amen. On va prier. J'aimerais vraiment qu'on puisse prendre ces moments au sérieux. La question, c'est Jésus qui la pose. Sous forme d'une affirmation, mais elle nous interpelle. Dieu est esprit, mais il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Seigneur, garde-moi d'apporter du feu étranger sur l'autel. Garde-moi même d'y mettre des holocaustes, etc. Parce que l'holocauste, c'était avant. C'était l'étape d'avant. Je ne vais pas revenir, alors que je suis dans l'adoration, à l'holocauste. Ce n'est plus nécessaire. L'offrande, je n'ai plus besoin d'y revenir, c'est déjà fait. On a lu le texte de l'Épître aux Hébreux où il a dit d'apporter un sacrifice, de nos lèvres. Juste après, il est parlé de la libéralité, de l'offrande. Quand tu viens à l'église, tu as préparé ton offrande. Et c'est parce que tu as préparé ton offrande que tu peux adorer. C'est déjà fait. D'accord ? Et ensuite, on passe dans l'adoration. Et l'adoration, elle se suffit elle-même. Il n'y a rien d'autre. C'est l'adoration. C'est ce à quoi nous sommes appelés lorsque nous nous réunissons, mes frères et sœurs. À adorer Dieu. C'est pour ça que j'ai prévu que la louange continue. Après, on va d'abord avoir un temps pour nous rappeler que tout ça, on le doit à Jésus-Christ. On va avoir le moment de Sainte-Cène maintenant. Et j'aimerais demander à l'équipe de venir. Et on va réellement se mettre devant Dieu en chantant ces quelques paroles où il est dit « Je ne saurai jamais le prix ». Ça résonne dans vos cœurs, ce genre de paroles ?« Je ne saurai jamais le prix de tout ce que tu as subi ». Et pour ça, oui, je te célèbre, je me prosterne, je veux proclamer ta majesté. Amen.